passenger is for Bangkok, Hong Kong, and Manila. Please proceed to the main floor for the meeting.
Ah, La Réunion, l'île Maurice, des îles de rêve, des plages sublimes.
Mais derrière tout ça, la vie est-elle si belle? Y a-t-il une face cachée de l'île? On découvre ça tout de suite avec...
L'Observatoire des Tortues Marines de La Réunion.
Projet Barzo.
Nouvelle route du littoral.
Du café.
Bourbon pointu.
La crise requin.
L'aventure du sucre.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Plus pour la deuxième émission de la classe média Ici Curie.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Jean-Philippe en direct de Boulogne-sur-Mer à Nausicaa, qui est devenu il y a à peine 10 jours le plus grand aquarium d'Europe.
Au programme, une émission spéciale Globe Reporter. Mais Nafel, Globe Reporter, c'est quoi?
Eh bien Amandine, je vais t'expliquer. Globe Reporter est une association qui propose des projets d'éducation aux médias pour faire découvrir aux jeunes ce qu'est vraiment le métier de journaliste.
Et comment ça marche?
La classe choisit une destination.
Pour nous, l'océan Indien.
Des sujets de reportage et hop, leur envoyé spécial.
Pour nous, Sidonia Adou, que nous aurons tout à l'heure au téléphone.
L'envoyé spécial part sur le terrain à l'autre bout du monde pour mener l'enquête et enregistrer tout ce qu'elle peut.
On récupère les interviews sur le site de Globe Reporter, on choisit, on coupe, on mixe et voilà le résultat. Et hop, un reportage en deux parties, de la mer à la terre comme si on y était.
Et restez bien à l'écoute avec nos invités en plateau, on reviendra dans la région pour voir comment combiner développement durable et développement touristique.
Et comme toujours, on attend vos questions et réactions ici dans le public et chez vous sur Twitter, hashtag Mer des Indes.
Alors vous cherchez peut-être votre prochaine destination de vacances, ouvrez grand vos oreilles et fermez les yeux. Décollage immédiat pour l'océan Indien.
On vous emmène voir le pays derrière la plage.
Non, je vais prendre un radeau et puis je vais aller faire un tour. Laisse-moi y aller, sois gentil.
Bon, 10 minutes, pas plus.
Merci, maman.
Vous savez, le nom requin vient du mot requiem. À l'époque, on jetait les marins quand ils mouraient sur le bateau. On pouvait pas, il n'y avait pas de chambre froide. Donc on les entourait dans une voile et on les balançait dans l'eau. Et là, le requin faisait le requiem voilà.
Mes parents ne savaient pas nager comme beaucoup, quasiment tous les créoles. Et ben pour eux, la mer, c'est le diable. La croyance autour de la mer était très forte.
Le problème, c'est que sur une île tropicale, c'est quand même compliqué de dire aux gens qu'on n'a pas le droit d'aller se baigner, qu'on n'a pas le droit d'aller à la plage.
Je trouve qu'ils font pas assez. Les médias, en fait, ils font à leur sauce et ils prennent que le positif, en fait. Ils ne vont pas prendre ce que j'ai dit de mon cœur, la vérité, en fait. J'arrive pas à comprendre, en fait, pourquoi ils font ça.
La Réunion au bord de la crise de mer.
Le mot crise fait référence au fait qu'on a des groupes de personnes qui n'ont pas les mêmes intérêts ou la même vision de la situation vis-à-vis des requins à La Réunion. Et ça pose des problèmes au niveau environnemental, au niveau social et au niveau économique. Pourquoi ? Parce que à La Réunion depuis 2011, on a eu une série d'attaques de requins assez importantes.
En juin 2011, une attaque mortelle. En septembre 2011, une attaque mortelle. Plus encore d'autres attaques en juillet. Plus encore des attaques en octobre. Du coup, toutes ces attaques ont fini par nous donner raison. Comme quoi, il y avait un problème nouveau. Mais bon, voilà, ce problème nouveau, personne... C'est un peu comme le film des Dents de la Mer. Il y a une personne qui passe pour un fou parce qu'il a vu un requin et il y a quelqu'un qui a disparu. Et il va voir le maire et le maire lui dit « Non, non, on a besoin des touristes, il faut rien dire, vous taisez, c'est pas vrai, vous êtes un fou. » Et il a fallu qu'il y ait plusieurs attaques pour qu'il soit reconnu comme quelqu'un qui avait voilà qui disait la vérité. Et ben, c'est un peu ça qu'on a vécu et que je raconte dans mon livre d'ailleurs.
On a tous imaginé cette scène de cauchemar. Le requin qui s'approche, la peur. Mais ici, à La Réunion, les surfeurs ne sont pas dans un film.
J'ai déjà secouru deux fois des copains à moi qui se sont fait attaquer par un requin en surfant. Voilà, j'ai déjà assisté, quoi.
Fabien, 26 ans, dont 12 de bodyboard.
C'était des attaques graves ?
Oui, bah, c'était des attaques mortelles. Ouais. C'était assez dur. De voir un bon copain, c'est comme un frère de la mer, en fait. On s'en fait ensemble, on a grandi ensemble. Et que, ben voilà, il est parti de sa passion, quoi. Donc voilà. Mais c'est pas pour autant que j'arrête ma passion, parce que je suis un drogué de ce sport et que je peux pas arrêter, même s'il y a ces risques-là, ben je fais avec et voilà, de toute façon, j'ai pas le choix.
Et t'as pas peur, toi, quand tu vas surfer ?
Si, si, j'ai une appréhension toujours, mais c'est sûr que je suis pas serein à l'eau. Mais ma passion prend le dessus, quoi. En fait, quand je surfe, en fait, je me sens plus vivant.
L'impact psychologique est énorme, en fait. J'arrive même pas encore aujourd'hui, je pense, à réellement mettre des mots là-dessus.
Nelly, 29 ans, vigirocain.
Sur les postes de secours, les maîtres nageurs qui ont pour la plupart assisté à des attaques de requins, c'était des potes à eux, c'était des amis à eux. Ramener le corps d'un ami meurtri sur la plage, c'est pas évident. Ou alors, ne pas pouvoir le ramener. Donc l'impact psychologique va au-delà de simple mal-être. C'est qu'il y a beaucoup de personnes, surfeurs, maîtres nageurs, et tout ce monde-là hein, qui appartient à la mer, qui ont sombré dans l'alcool, qui ont sombré dans des choses qui bah de dépression en fait. Mais ça n'est pas dit aujourd'hui de cette manière-là. Et à La Réunion, il n'y a rien qui a été fait pour ça.
Il faut reposer le contexte. Aujourd'hui, les activités nautiques sont interdites à La Réunion. Sauf dans le lagon, où il n'y a pas de vagues, donc peu d'intérêt pour un surfeur. Dessin de surfeur barré d'un trait rouge, la signalétique est claire. Si on passe outre, on est mis à l'amende, 38 euros.
Et toi, t'as déjà été verbalisé ?
Oui, j'ai déjà été verbalisé deux, trois fois, une amende parce que je suis parti surfer. Ils pensent plus à protéger le requin, en fait. Tout ça pour une question de finances. Ils disent que c'est en voie de disparition, mais voilà, c'est pas en voie de disparition, le bulldog.
Dans le milieu des surfeurs, on sent vraiment le malaise. Jean-François Nativel est de cela. Cet ancien champion de bodyboard, aujourd'hui professeur de PS à La Réunion, parle beaucoup aux médias. Pour lui, ceux qui ne veulent pas entendre parler de la pêche sont à côté de la plaque.
Savez-vous qu'en France, on tue chaque année environ 3 à 5 millions de requins. Veaux de mer, émissoles, chiens de mer, roussettes, peau bleue. Allez chez votre poissonnier, allez dans les poissonneries des supermarchés, vous verrez du requin qui est en vente libre. Et je parle même pas de la raie qui fait partie de la famille des requins. Donc la France pêche 5 millions de requins chaque année. Cette pêche, elle s'inscrit dans une pêche durable, c'est-à-dire que la ressource est respectée. Mais malheureusement, comme derrière... Il y a beaucoup à récupérer pour les ONG en termes de notoriété et de donation. Et ben, eux, leur seul intérêt, c'est de dire les poissons ont disparu, 2048, il n'y aura plus de poissons, les requins sont massacrés, etc.
Mais pêcher le requin bulldog n'est pas seulement interdit pour éviter une possible disparition de l'espèce. Une autre menace plane sur la commercialisation de l'animal. Écoutez l'ouverture du journal des Outre-mer de Julie Straboni le 15 octobre 2017 sur France Info.
France Info. Depuis 1999, le requin ne peut pas être commercialisé car il est soupçonné d'être contaminé par des ciguatoxines dangereuses pour l'homme. Mais une étude menée à La Réunion montre que le risque d'intoxication alimentaire est infime. Alors pourquoi ne pas reprendre la pêche et autoriser la consommation de squales, ce qui réduirait le risque d'attaque ? Il en a été question cette semaine lors de la visite de la ministre des Outre-mer, pendant que les pêcheurs, eux, trépigne.
Le pêcheur, pour lui, c'est un plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a comme il y a moins de thon, il pêche le requin et ça lui fait quand même un apport de salaire.
En attendant, si on ne peut pas supprimer les requins menaçants, pour Jean-François Nativel, au moins pourrait-on ne pas les attirer davantage près des côtes, comme le ferait la réserve naturelle marine créée par l'État en 2007.
On a mis une réserve marine qui protège et élève des requins bulldogs là où on se baigne avec nos enfants. Avec des prédateurs, des thons, des barracudas, des carangues qui se mangent entre eux toute la journée, ça attirerait pas des requins. Donc ils ont mis en place une réglementation qui nous tue. Une réglementation qui n'est pas du tout adaptée à notre île, qui est extrêmement propice aux requins bulldogs. Et ils ont mis en place une réglementation qui est tellement absurde qu'elle a conduit à la fermeture de l'océan. Le problème, c'est que les gens n'ont pas envie d'entendre qu'une réserve marine pourrait poser un problème à des humains. Parce que la réserve marine, c'est de la protection. Et on vous a dit, l'homme est trop nombreux, il a trop détruit, il n'y a plus de poissons, etc., etc. Donc, la vérité est souvent très complexe, alors que le mensonge est très simple. Je vous donne un exemple. Vous dites, drumline égale appât égale attire les requins. C'est très facile à comprendre. Tout le monde comprend. La crise requin est l'archétype de la manipulation d'opinion. Les drumlines, ça restait un moyen simple, économique et a priori efficace au vu des résultats de l'Australie, de l'Afrique du Sud, qui montrent que dans les zones protégées par des drumlines depuis 50 ans, il y a eu zéro attaque mortelle.
Pour faire simple, une drumline, c'est un fil de pêche relié à une bouée en surface et à un hameçon au fond, qui permet de capturer un requin sans le tuer. Sébastien Jacquemet est chercheur. Pour ce spécialiste des prédateurs marins, qui coordonne les activités scientifiques au CRA, Centre de ressources et d'appui, relancer un programme de pêche préventive, ce n'est pas si simple.
Tous les programmes de pêche dans le monde, à l'exception de l'Afrique du Sud, ont quand même montré leurs limites. C'est-à-dire qu'il continue à y avoir des attaques, même si on pêche depuis très longtemps. Donc on sait que ce n'est pas une solution totalement pérenne. Sauf en Afrique du Sud, où ils ont pêché pendant très nombreuses années avec des filets. Là, ils ont déployé des grands filets, et donc tout ce qui passe à travers le filet se fait attraper. Mais il y a eu du massacre de beaucoup d'autres espèces de requins, raies, mammifères marins, tortues et autres. Ils sont en train de diminuer la quantité de filets au profit de drumline. Après, c'est facile de critiquer, mais quand on n'a pas d'autres solutions, la pêche, ça... Dans l'esprit des gens aussi, ça permet d'apaiser les tensions. Hein. On sait que la pêche, c'est quand même quelque chose qui est dommageable pour l'environnement. Et donc, on a essayé de limiter la casse en développant cette drumline particulière.
Des moyens de prévention, les surfeurs en ont vu passer. Bracelets électromagnétiques, filets avec mailles indéchirables, drones, ballons caméra, sonar. Mais devant l'impuissance des pouvoirs publics, ils ont créé leur propre dispositif qui combine plongeur et écran de contrôle. Flavio est apnéiste pour viger requins renforcés.
Notre mission, c'est bien sûr l'observation, en première chose. Donc, évidemment, l'alerte et l'évacuation. Ce sont nos trois principes. Donc, on n'est pas là ni pour tuer, ni pour blesser, ni pour faire quoi que ce soit dans l'environnement marin. Donc, c'est juste de la prévention, quoi.
S'ils insistent tant sur le fait qu'ils ne touchent pas aux requins, c'est que la crise requin est un sujet très sensible dans l'opinion publique. Il y aurait les gentils écolo-protecteurs de la nature d'un côté et les méchants surfeurs qui ne penseraient qu'à leur plaisir de l'autre. Nelly, elle aimerait plus de modération.
La protection par les extrêmes écolos, on va dire, a pris une partie importante dans la crise requin au tout début. Et je pense que l'État s'est rangé un peu par rapport à ça. Mais on n'est pas dans le juste milieu, quoi.
Voilà, nous on constate simplement qu'on a toujours été soucieux de la nature, protecteur de l'environnement, et que malheureusement maintenant on est considéré comme les ennemis parce qu'on réclame simplement le droit de pouvoir mettre un doigt de pied dans l'océan et de profiter de notre environnement. C'est tout.
Alors prenons un peu de recul. Comment tout cela a-t-il commencé ? La crise requin ne serait-elle pas le révélateur d'une dégradation plus profonde des relations entre l'homme, l'animal et la nature ?
On a globalement un écosystème qui est en train de se dégrader petit à petit. Du fait du développement de l'île, mais aussi, après, voilà, comme je disais encore aussi, les conséquences globales, le réchauffement des eaux. Si les coraux sont en moins bonne santé, ben derrière, tous les organismes qui dépendent des coraux sont en moins bonne santé. Et dans un écosystème qui est dégradé, ben on va avoir des espèces opportunistes, comme le requin bulldog, qui vont peut-être trouver leur place et qui vont être plus adaptés dans ces environnements-là. Et qui font que, ben voilà, ils sont peut-être aujourd'hui plus présents à la côte que par le passé.
Vu de l'île Maurice, la crise requin ne provoque pas du tout les mêmes réactions. Elles n'ont beau être distantes que de 200 km, les deux îles sont assez différentes. Hugues Vitry est plongeur professionnel à Maurice. Et il ne mâche pas ses mots sur les surfeurs.
Le cas de la Réunion est un cas d'école. On a deux ou trois esprits chagrins qui veulent faire du surf à tout prix, qui font un random pas possible, et qui demande la destruction totale des requins, donc à cause de 3 ou 4 personnes, on veut détruire quelque chose dont on ne connaît pas les conséquences. À chaque fois que l'homme est intervenu dans la nature, on a créé un chaos. Quand vous êtes boxeur et que vous montez sur un ring, vous devez accepter de prendre des coups. Non, vous voulez prendre des risques, prenez vos risques, mais assumez-les.
Mais ce ramdam n'aurait-il de conséquences que pour une poignée de personnes ? Et quel impact a réellement la crise requin sur l'économie touristique en mer des Indes ?
Il y a des effets négatifs sur le tourisme, puisqu'il y a une baisse de l'économie qui est considérable.
L'artisanat, les compagnies aériennes, les hôteliers, les restaurateurs et tous les gens qui vont les fournir aussi. Donc,
Tu vas dans n'importe quel magasin de surf, les gars sont en train de mettre la clé sous la porte s'ils existent encore.
Les gens aussi entendent pas forcément une bonne image de La Réunion, donc ils vont pas forcément venir à La Réunion.
Parce que quand on peut pas profiter de la mer, là il s'agit plus d'une question de se dire est-ce que j'ai envie ou pas envie d'aller dans l'eau. Non, c'est que de toutes les manières c'est interdit d'aller à l'eau à La Réunion.
Les requins, oui, ça a une grosse influence parce que pour nous c'est une manne. Le fait d'avoir des requins, on a beaucoup de gens qui viennent à l'île Maurice pour plonger avec les requins. On a plusieurs endroits, des fosses à requins, des bassins à requins, des cathédrales à requins, où les gens viennent pour plonger avec les requins. Et c'est quand même magnifique à voir. Qu'ils aient peur du requin, pour nous, c'est pas un problème. Parce que, en fait, on sait quand on va les emmener voir les requins, on va démystifier l'animal. Hein, ils vont découvrir un autre animal. Pas le croque-mitaine qu'ils avaient dans leurs souvenirs, dans leurs rêves d'enfant qui se cache sous le lit et tout ça. Donc on va faire de cet animal un des animaux qu'ils vont adorer regarder après à l'avenir. Quand ils vont voir la première fois leur premier requin, ils vont faire « Waouh !»
Mais les requins ne sont pas les seuls géants des mers à fasciner les touristes. En bonne place sur les dépliants touristiques, on vous promet de nager avec les dauphins, les baleines. Alors quand on a démarré le chantier de la nouvelle route littorale, le mot d'ordre était d'éviter, réduire et compenser tout ce qui pourrait déranger ces grands mammifères, à commencer par le choix du tracé de la route.
Il y avait plusieurs trajets prévus à l'origine. Il y avait un trajet qui était prévu le long de la route comme il est en train d'être construit.
Solène Boucher, étudiante en écosystème aquatique.
Il y avait un trajet en tout viaduc, un trajet en tout digue. Une tout digue, c'était absolument catastrophique pour la faune. Il y avait un projet de passer en tunnel sous la montagne. Donc ça impliquait d'énormes coûts et de la destruction et beaucoup de dangers pour toutes les personnes impliquées dans les travaux et potentiellement les automobilistes dans le futur. Il y avait aussi un projet de faire passer la route par-dessus des falaises, donc ce qui était encore plus dangereux et encore plus destructeur.
Laurent Mouisset travaille pour Globis, une association qui a été chargée d'observer de près le bien-être des cétacés pendant le chantier.
Le problème number one, c'est le bruit sur les cétacés pendant le chantier. Le battage, en fait, consiste à avoir des espèces d'énormes marteaux pneumatiques qui viennent taper sur des pieux qui s'enfoncent dans le sol et qui permettent d'ancrer les piles profondément, de leur faire une assise. Donc ça, c'était des travaux qui allaient être extrêmement bruyants, donc potentiellement mortels pour les animaux. Avant tout épisode de travaux bruyants, les entreprises ont pour obligation d'avoir un survol aérien par ULM et une mission en mer avec un observateur en mer embarqué avec un hydrophone pour vérifier qu'il n'y a pas de cétacés dans la zone. Et les travaux ne vont commencer que s'il n'y a aucun cétacé détecté sur zone.
Et s'il y a présence d'individus, et ben les travaux ne sont pas exécutés. Donc ce jour-là, il n'y a personne qui va faire les travaux. Et c'est déjà arrivé en début d'année, je crois, il y avait une baleine qui était venue se frotter au poteau des viaducs. Donc ils avaient arrêté tous les travaux en attendant que madame ait terminé de se gratter le dos.
Fabrice Schneller est biologiste et spécialiste de l'acoustique. Il installe un hydrophone qui mesure en continu le bruit à 20 mètres de profondeur.
Un hydrophone, c'est un micro qui est conçu pour mesurer le bruit dans l'eau. Cet hydrophone va être plongé dans la colonne d'eau et va nous permettre de mesurer les ondes acoustiques qui sont émises par le chantier, mais également par source de bruit naturel. Donc il y a pas mal de sources de bruit. La mer n'est pas le monde du silence, hein. C'est un milieu assez bruyant. Vous avez le bruit des crevettes qui sont très très bruyantes, vous avez le bruit des galets remués par la houle. Et donc on va mesurer tous ces niveaux de bruit, ensuite on va analyser pour vérifier que le niveau du bruit du chantier reste dans les limites naturelles du bruit auxquelles les animaux sont habitués.
S'il y a le moins de problèmes avérés sur un cétacé, comme sur d'autres espèces, le chantier est arrêté. Et sur un chantier comme ça, c'est plus d'un million d'euros la journée, quoi. Donc forcément, il y a de la motivation pour qu'il n'y ait pas de problème. Tout n'est pas parfait, hein. On n'est pas au pays des merveilles. Hein.
Effectivement, autre problème du chantier de la NRL, il est tout frais, les récifs coralliens. Lola Massé est responsable scientifique à la réserve naturelle marine et elle connaît très bien les coraux.
En fait, le plus gros problème, justement, c'était par rapport à la turbidité de l'eau. Le chantier faisait beaucoup de poussière dans l'eau et donc la poussière rendait l'eau opaque et elle venait se coller sur les coraux. Et donc en installant des grandes toiles, ils ont empêché une partie de cette poussière d'arriver sur des coraux à côté. Bon, c'est pas efficace à 100%. Les éco-récifs qu'ils ont construits dans les piliers de la route, c'était principalement pour les poissons, les poulpes et les autres animaux. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si la route littorale elle est construite sur un milieu rocheux où on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui vit, en fait, entre les rochers, chaque petit trou est une petite maison pour un animal. Donc ils sont partis de cette idée-là et ils se sont dit « bon bah, nous, on va bétonner ce fond rocheux pour pouvoir installer le pilier de la nouvelle route ». Mais on va recréer des petits trous et des petits interstices dans les piliers pour que ces petits habitats soient toujours présents.
Protéger ce patrimoine exceptionnel, c'est une préoccupation constante sur l'île. L'océanologue Stéphane Sissonne est le directeur de Kélonia. L'observatoire des tortues marines accueille chaque année 25 tortues victimes de pêche accidentelle, de chocs avec un bateau et surtout du plastique. Ici, on les soigne et on transmet aux visiteurs l'urgence de les préserver.
Les tortues sont sur Terre, enfin en tout cas dans les océans pour les tortues marines depuis 110 millions d'années. Donc elles ont survécu à énormément de choses, y compris à des cycles de réchauffement et de glaciation. Donc elles ont des capacités de survie qui sont quand même assez exceptionnelles. Par contre, arrivent de nouvelles menaces pour lesquelles elles n'ont pas eu le temps de s'adapter, parce que c'est des menaces qui arrivent très très vite. C'est le réchauffement climatique actuel qui se fait à une vitesse jamais vue antérieurement. Et puis c'est ces déchets plastiques qui envahissent les océans. On a maintenant pratiquement 90% des tortues qui arrivent au centre de soins qui ont ingéré des plastiques. Alors, ce n'est pas forcément la cause pour laquelle elles arrivent au centre de soins, mais en tout cas, elles ont des plastiques dans l'estomac et dans les intestins qui parfois peuvent créer des occlusions qui souvent sont mortelles. Donc, on est sur une menace qui augmente et qui va certainement augmenter encore dans les années qui viennent. Donc, il faut vraiment que chacun, à son niveau, essaye de limiter sa consommation d'énergie pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et de limiter énormément la production et l'utilisation des plastiques pour éviter que ces produits-là n'aillent polluer la mer et impacter les tortues en particulier.
Comment ne pas être ému par la grâce de la tortue dans l'eau, avec ses mouvements lents et élégants, on dirait qu'elle vole. Et cet animal possède bien d'autres facultés attachantes. On dit par exemple qu'elle revient pondre sur la plage où elle est née.
Alors effectivement, elles reviennent pondre là où elles sont nées. Souvent c'est 15, 20, voire 30 ans après. On pense que lorsque la petite tortue sort du sable, au moment de la naissance, elle va prendre sa première respiration et elle va mémoriser l'odeur de la plage sur laquelle elle a pris ses premières respirations. Voilà. Et ensuite, quand elle voudra se reproduire, on imagine qu'elle recherchera ses odeurs, d'où l'intérêt d'avoir des plages avec la bonne végétation pour pouvoir attirer les tortues. En fait, on a montré sur Kélonia que la végétation littorale jouait un rôle dans le choix des tortues de la plage sur laquelle elle va venir pondre. C'est un rôle qui est d'abord un rôle olfactif, parce que cette végétation qui pousse sur les plages va dépendre de la qualité du sable. On n'aura pas le même type de végétation sur une plage de sable fin corallien ou sur une plage de galets ou sur une côte rocheuse. Et donc, cette végétation qui va générer des odeurs, notamment quand elles sont en fleurs, ces odeurs sont entraînées à la surface de l'océan par les vents marins. Et donc, les tortues, lorsqu'elles montent respirer, sentent ces odeurs pour retrouver les endroits où la plage est favorable à la ponte. Ce qui fait que même à plusieurs dizaines ou de kilomètres de la plage ou d'une île, la tortue peut identifier dans quelle direction elle va trouver une plage favorable à la ponte. Et donc, à La Réunion, cette végétation littorale originelle qui a disparu, on a décidé de la reconstituer. Et en 2004, on a eu des tortues qui sont venues pondre au pied des arbres que nous avions plantés.
Kélonia n'est qu'une étape dans la vie des tortues. Lorsqu'elles sont guéries, Elles sont relâchées dans l'océan, mais comme on a du mal à les quitter, on a demandé à en parrainer une. Elle s'appelle Ella, elle a retrouvé la mère des ânes le 27 mars et on aimerait bien la suivre encore un peu.
Comment on suit les tortues? Alors chaque fois qu'on relâche une tortue, on leur met des bagues métalliques au niveau de la nageoire. On fait de la photo-identification, c'est-à-dire qu'on va prendre les photos du profil de la tête parce qu'on a montré que l'écaille des profils est spécifique à chaque tortue, c'est un peu les empreintes digitales. Et puis quand on a les financements, ce qui n'est pas toujours le cas, ben on va équiper les tortues de balises Argos, ce qui va permettre de pouvoir les suivre en direct pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois après qu'on les ait relâchées. Et ça nous permet de voir justement comment ces tortues se déplacent dans l'océan, où est-ce qu'elles vont, le temps qu'elles mettent à se déplacer, les distances qu'elles parcourent, d'avoir même des comportements de plongée, parce que par moment on peut mettre des capteurs de profondeur sur ces balises. Voilà. Donc ça nous donne énormément d'informations nouvelles sur la vie marine, la vie pélagique de ces tortues.
Et voilà, Ella reprend la mer aujourd'hui. Elle était au centre de soins depuis le 2 octobre 2017, puisqu'elle a été amenée par un bateau de pêche et elle avait un hameçon dans la gorge, donc elle a été opérée. Et maintenant, ça y est, elle est en forme, elle repart à l'eau.
Et vous êtes toujours sur Radio Plus en direct et en public depuis Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Vous venez d'entendre Côté Mer, la première partie du reportage réalisé à La Réunion en janvier dernier par les Globe Reporters, les Globetrotters d'Issy-Curie. Avant d'accueillir nos invités en plateau, je vous propose un petit rappel de géographie qui ne sera pas inutile, y compris pour moi, surtout pour moi d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas La Réunion, donc c'est une montagne volcanique posée sur l'océan Indien, 200 km de côte, une eau turquoise à 28 degrés, des plages qui plongent à pic vers des fonds marins, l'écosystème exceptionnel, un trésor donc de biodiversité et une destination de rêve pour les touristes qui alimentent l'économie de l'île. Mais comment se passe véritablement la cohabitation entre l'homme et cette nature plutôt sauvage? Eh bien, derrière le décor de cartes postales, vous l'avez compris, c'est un peu plus compliqué entre les requins, les cyclones, le changement climatique et j'en passe. Autant dire que la mer est un sujet sensible à La Réunion. Alors, pour nous aider à y voir plus clair, nous avons avec nous en plateau un responsable du Thomas Tramin, responsable du secteur tempéré à Nausicaa. Merci d'être avec nous. Également à vos côtés, Dominique Malvoy. Vous êtes bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes responsable adjoint en aquariologie.
C'est ça, oui, bonjour.
Et avec nous, nous aurons également tout à l'heure en plateau Xavier Elsmortel, qui a travaillé à Nausicaa et à La Réunion avant de produire de la fleur de sel. Et il va nous raconter, nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez déjà quelques réactions sur le reportage que vous venez d'entendre?
Ce sont c'est une petite interview très intéressante, c'est des plusieurs points de vue sur la crise requin, entre autres, sur les tortues, etc. Et on se rend compte que c'est vraiment un sujet délicat, pas évident à résoudre, mais qui a beaucoup de bonne volonté et qui a plein de choses qui sont faites. Un peu dans tous les sens, mais plein de choses.
Thomas Tramin.
Pareil, c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue des personnes, des locaux qui vivent avec cette fameuse crise requin et le comportement de tout à chacun qui évolue autour. C'est intéressant d'avoir les points de vue.
Quand on tape sur Internet animaux dangereux, on tombe 9 fois sur 10 sur une image de requin. Et pourtant, en réalité, ils sont bien loin du podium. De la première place revient à qui? Aux moustiques, avec plus de 700 000 morts par an. Contre seulement 10 pour les requins. Comment expliquer que l'image de tueur du requin lui colle à ce point à la peau?
Alors oui, les requins, c'est vrai que c'est un animal, je crois, qui est fascinant, qui fascine tout le monde depuis des siècles et des siècles. L'origine de son nom, déjà, requin, en fait, ça vient peut-être, c'est une supposition, ça vient peut-être de Requiem, donc vous savez, qui est la musique des morts. Voilà. Après, il y a une autre explication aussi qui vient des Vikings. Et en fait, on pourrait traduire requin par chien. Parce que les requins ont tendance aussi à suivre parfois les bateaux notamment quand ils jetaient du poisson à la mer, par exemple. Donc voilà, après, c'est un animal extraordinaire. Il y a plus de 500 espèces qui ont été découvertes dans le monde. Cet animal est présent sur la planète depuis plus de 450 millions d'années. C'est un super prédateur qui se trouve dans toutes les mers du monde et donc qui a toujours fasciné, qui a toujours fait un petit peu peur parce que on a toujours peur aussi de l'inconnu. Voilà. Donc la terreur qui sort des mers, etc., avec des grandes dents, ça peut faire un risque. Et puis il y a eu aussi le film mythique des Dents de la Mer qui n'a pas fait beaucoup de bien à l'image du requin.
Vous qui êtes un peu leur nounou, on peut dire ça comme ça, racontez-nous comment se passe une journée de requin à Nusca. Est-ce qu'ils sont plutôt lève-tôt, de gros mangeurs, ou est-ce qu'ils se servent un peu plus dans l'aquarium des poissons qui nagent autour d'eux?
Alors, les requins à Nusca, on en a pas mal d'espèces, notamment, bon, alors on va parler des plus gros là, peut-être, ce qui vous intéresse. En fait, les requins sont assez économes en énergie, que ce soit dans le milieu naturel ou en aquarium, on va dire plutôt fainéant. Quelque part, hein. Et puis en fait, ils vont passer leur journée à nager tranquillement, parce que ce sont des animaux qui pour la plupart ont besoin de nager pour s'oxygéner tout simplement, mais ils nagent tranquillement. Et puis ils vont quelque part attendre la nourriture, parce que nous on s'en occupe bien, nos requins en aquarium, donc on va les nourrir 2 à 3 fois par semaine, ce qui est largement suffisant pour eux. Et ils vont manger en gros entre 2 à 3% de leur poids par repas, ce qui est infiniment peu par rapport, par exemple, à un être humain qui va manger à peu près 7% de son poids par semaine. Donc c'est un requin mange beaucoup moins qu'un être humain, et proportionnellement, il va aussi manger beaucoup moins que d'autres poissons qui sont extrêmement voraces, mais en général de beaucoup plus petite taille.
Les requins de Nausicaa, ce sont des naissances?
Alors à Nausicaa, on a plusieurs espèces, et principalement les espèces qui sont présentées sont issues de programmes de reproduction, soit à Nausicaa, soit avec d'autres aquariums. Donc ici, on arrive à produire, on est même référent sur plusieurs espèces de requins. Donc ici, quasiment toutes les espèces sont issues de reproduction, soit à Nausicaa ou d'échanges.
Donc ça veut dire qu'il y a des naissances à Nausicaa?
Alors on est quand même un bon centre où on a de la reproduction. Par exemple, dans la section mer froide, on a les roussettes et les raies aussi, qui sont les cousins des requins. Les petites roussettes, on a plusieurs centaines de naissances par an.
Ou alors des prédateurs aquariums?
Alors avec les autres aquariums, au final, ce sont des échanges. Donc, par exemple, là, on peut observer dans le grand bassin des requins des requins gris qui sont issus d'une reproduction à Antibes, dans un aquarium partenaire. Et au final, on a eu la chance de pouvoir les accueillir ici à Nausicaa.
À Kelonia, Stéphane Sissonne nous a expliqué qu'il pompait l'eau du lagon pour alimenter les bassins des tortues. Vous avez ce même système ici à Nausicaa?
Alors oui, on a la chance d'être juste à côté de la mer. Donc on ne pompe pas directement en mer. Par contre, on a des sortes de drains, vous savez, des tuyaux percés de plein de petits trous qui sont enfouis sous le sable de la plage. Et qui conduit ensuite à une pompe qui envoie l'eau sur Nausicaa. Et on profite ainsi de la préfiltration de la plage du sable de Boulogne avant d'alimenter tous les aquariums de Nausicaa. Donc aussi bien les aquariums de Tampere, les aquariums de Thomas, hein, qui sont plutôt de 10 à 17 degrés, et puis aussi tous les autres aquariums plutôt tropicaux à 26-28 degrés. Voilà, après un petit traitement de température, évidemment.
On associe souvent les requins aux mers chaudes. On a aussi des requins en mer du Nord. Est-ce qu'il y a des espèces marines menacées?
Alors, on est quand même dans une région où il y a beaucoup de trafic maritime, mais aussi beaucoup de bouleversements et de migrations de poissons. Donc ici, on a la chance dans notre région de pouvoir, par exemple, observer le deuxième plus gros poisson au monde, qui est le requin pèlerin, qui est un requin inoffensif et qui passe l'été près de nos côtes. On a aussi du passage de requins taupes, on a eu il y a des années du requin renard, il y a beaucoup d'espèces. C'est vrai qu'on a l'image du requin dans les eaux chaudes, mais dans tous les écosystèmes au final, que ce soit en Méditerranée, en Manche, en mer du Nord, on a la présence de requins.
Les témoignages de notre envoyé spécial disent que les victimes des requins sont des surfeurs ou les baigneurs, mais pas les plongeurs. Comment expliquer ça, vous qui plongez au contact des requins, vous n'avez jamais peur?
Alors, au tout début, quand on nous a proposé de plonger avec les requins, forcément, on avait une petite appréhension. Et puis, en fait, on a appris à plonger avec eux, à les connaître. Et en fait, aujourd'hui, on plonge au quotidien avec eux, sans avoir jamais de soucis. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce ne sont pas des mangeurs d'hommes tels qu'on pourrait croire, hein, même si ils ont des grandes dents et qu'ils font quasiment notre taille. Il n'y a jamais eu aucune agressivité de leur part. Alors, par contre, avec les surfeurs, les baigneurs, en effet, bah, ce sont des personnes qui font une activité nautique en surface. En surface, avec une planche, par exemple, d'un surfeur, le requin qui se trouve par le dessous peut très bien imaginer, vous voyez, ça fait une forme un peu ovale, avec les bras et les jambes qui dépassent, qui ressembleraient presque à des nageoires, ou voilà. Donc, ça peut ressembler à, en fait, une otarie, un phoque, quelque chose que les requins aiment particulièrement. Et c'est la même chose pour les nageurs qui se trouvent plutôt vers la surface. Et donc, en général, ce genre d'attaque sur des baigneurs, des surfeurs, eh bien, ce sont plutôt des erreurs, quelque part, que commet le requin en voyant cette forme et en pensant s'attaquer à son repas favori. Mais en fait, au final, ils apprécient très peu la chair de l'homme. Pour les plongeurs sous-marins, ils sont dans l'eau. Donc, on ne voit pas la même chose. Enfin, le requin ne voit pas la même chose. Donc, en fait, le plongeur ne les intéresse pas vraiment. Sauf s'il a une ceinture de poisson accrochée à lui, pour les chasseurs sous-marins, par exemple. Mais ça, c'est exceptionnel. Mais donc, voilà, c'est pas la même perception pour le requin.
Ludwig Coulia a plongé à Djibouti pour poser une balise sur un requin-baleine. Vous aussi, vous avez déjà plongé en mer avec des requins ?
Oui, bien sûr, en mer Rouge, par exemple. Et c'est quelque part, quand on est dans le milieu naturel, en fait, rencontrer des requins. Alors souvent, on va plonger pour essayer de les rechercher, justement. Et c'est pas garanti du tout. Et c'est plutôt une chance quand on peut apercevoir ces animaux en mer.
Le biologiste acousticien dans le reportage disait que la mer n'est pas vraiment le monde du silence. Alors, qui fait le plus de bruit sous l'eau ?
Ah oui, en effet, la mer, ce n'est pas du tout le monde du silence. En fait, l'eau est très dense et donc elle va conduire bien mieux le son que l'air. Et donc, dans l'eau, on entend beaucoup de choses. Alors, on ne sait pas vraiment de où vient le son, mais en effet, on entend très bien. Et en fait, vous avez différents animaux qui font beaucoup de bruit, comme la baleine bleue, par exemple, ou alors des minuscules petites crevettes qui font énormément, énormément de bruit parce qu'elles sont des milliers. Et puis par exemple vous avez le cachalot qui émet des cliquetis. Alors si vous baladez dans la nouvelle exposition de Nausicaa par exemple, on a reconstitué une zone où on voit les cachalots à 360 degrés et on entend ce son qui vient d'un peu partout avec des cliquetis très très forts. Voilà, et c'est la communication des cachalots avec leurs petits.
Depuis le 22 mai, l'Agence française pour la biodiversité lance une nouvelle campagne à destination des jeunes sur les réseaux sociaux. On est tombé sur ce clip.
D'accord, le requin mange la raie, mais la raie mange les coquilles Saint-Jacques. Retirez le requin de l'équation, alors la raie n'aura plus de prédateurs et fera une surconsommation de coquilles Saint-Jacques. Adieu, mère nourricière épaulée de Saint-Jacques. Donc, sous ses airs de faux dur, le requin est un vrai bienfaiteur des océans. Préserver la biodiversité, c'est aussi nous préserver.
Alors, on dit souvent que si les abeilles disparaissent, il n'y aura plus de fleurs, etc. Mais est-ce que c'est pareil dans la mer ? Si on supprime une espèce, les autres peuvent disparaître ?
La mer est un très très grand équilibre. Et c'est vrai que si on retire un des éléments, ça peut poser de graves désordres, de graves problèmes. Retirer le requin de l'équation, en effet, ça peut être vraiment problématique parce que c'est lui qui est le grand régulateur de ces biotopes. Donc, en fait... si vous retirez ce requin, eh bien, vous allez propager certaines maladies. Des espèces vont pouvoir se développer alors que d'habitude, elles sont chassées par ces requins. Et donc, elles vont prendre complètement le milieu et déséquilibrer tout ce milieu. Et il existe vraiment des cas très concrets dont on se rend compte aujourd'hui. Là, l'exemple de la coquille Saint-Jacques est très bien prise parce que la coquille Saint-Jacques était très bien pêchée. Ensuite, on a pêché les requins en même temps. Ce sont les raies qui se sont développées et au final, les pêcheurs n'ont plus de coquille Saint-Jacques parce qu'il n'y a plus de requins et parce que les raies ont pris la place des requins.
Le magazine National Geographic fait la une de son numéro de juin sur un photomontage impressionnant, un iceberg en sac plastique. Est-ce que le plastique qui envahit les océans est un danger pour les requins comme pour les tortues ?
Alors je dirais que oui, pour les requins, les tortues, mais pour tout le monde au final, pour tout l'écosystème, il faut savoir que là, sur l'image de l'iceberg, on voit vraiment un macro déchet, vraiment quelque chose de très gros, qui peut être très bien géré par une tortue. Mais tout poisson, même nous consommateurs, quand on achète du poisson, au final, on engrange des microplastiques parce que c'est la chaîne alimentaire. Le petit poisson qui aura mangé ses microparticules sera mangé par un plus gros qui agglutinera au final ses microparticules. Et au bout de la chaîne alimentaire, bah, c'est des kilos et des kilos de plastique au final qu'on peut avoir dans nos organismes. Donc c'est vraiment un des sujets très très on est assez sujet à ça parce que faut faire très attention aux déchets. On parle même du 7e continent qui serait au final que du plastique.
Alors 14h44 hein, sur Radio Plus, j'en profite pour signaler, on est toujours en direct de Nausicaa Boulogne-sur-Mer. Vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag Mer des Indes. Et justement, on a déjà eu deux réactions, une réaction de Bellamuse. Merci de sensibiliser sur ce sujet de la faune sous-marine, victime moins visible du changement global. Et puis une autre réaction qui est plus une question. Est-ce que l'on peut apercevoir de nouvelles espèces de requins dans nos mers dues au réchauffement climatique?
Alors les réchauffements climatiques, bah oui, il y a une migration des populations. Il faut savoir qu'il y a quelques années, des poissons qu'on pouvait trouver sur nos côtes n'étaient pas présentes. On les identifiait plus Golfe de Gascogne, Bretagne, Manche. Et il y a une migration des populations. Donc il y a eu, par exemple, il y a maintenant 2 ans, il y a eu 2 observations coup sur coup de requins féroces, qui est une espèce qui est plutôt typique des mers plutôt chaudes, qui a été pêchée en des échouages en Normandie. Donc oui, il y a des migrations aussi des plus gros poissons, des prédateurs.
Dans le reportage, Jean-François Nativel critique beaucoup les réserves marines. Pour vous, quelles sont les solutions pour protéger le requin? Créer des réserves marines un peu partout et interdire complètement la pêche?
Alors, je prendrai pas la parole pour mon opinion et mon opinion, mais c'est vrai que les aires marines et les réserves naturelles sont à mon sens les réservoirs de biodiversité. Donc, il faut les conserver, il faut les protéger. Il faut surtout que l'ensemble, la globalité des usagers de la mer prennent conscience que voilà, à la fin du reportage, on l'entend. Faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Quand on va en mer, il y a de plus en plus d'usagers. Maintenant, à 5 heures, on est au bord de la mer, on est dans un océan Indien, on est bien. Mais il y a pas que notre personne, il n'y a pas que notre activité qui est présente. Il y a le monde qui est depuis des millions d'années autour de nous. Donc, il faut faire avec les risques qui sont malheureusement ce qu'ils sont à La Réunion, parce que c'est un sujet très sensible. Mais voilà, faut prendre conscience. On a aussi entendu dans le reportage un jeune qui disait qu'il est drogué à cette activité. Et bien, au final, c'est pareil. Il y a des plongeurs qui sont drogués de l'activité et qui veulent voir des requins. Il y a des villeplanchistes, pareil, qui adorent voguer sur l'océan. Ben voilà, faut que tout le monde respecte et ça se passera bien.
Nausicaa est à l'origine du label Mr. Goodfish qui insiste les gens à consommer de manière responsable. Cela concerne aussi l'outre-mer?
Alors oui, ça concerne aussi l'outre-mer. Mr. Goodfish, c'est surtout un programme pour en effet choisir son poisson en fonction de la saison. En France, on a l'Ifremer, donc on travaille en partenariat avec eux et c'est assez facile d'avoir des données sur toute la côte métropolitaine. En Outre-mer, c'est un petit peu plus compliqué, mais il y a quand même des espèces qui sont élevées, comme la crevette de Madagascar, par exemple, ou alors d'autres poissons que l'on sait, dont les quotas sont bons, dont les stocks sont bons, en Outre-mer. Donc ça, on a aussi quelques données là-dessus, même si elles sont un peu moins nombreuses. Mais en règle générale, il faut tout simplement choisir son poisson, un peu comme les fruits et légumes, en fonction de la saison, et essayer de diversifier un maximum ses choix de poissons pour éviter de toujours consommer le même poisson.
On a compris dans le reportage que les effets du tourisme sont plutôt négatifs à La Réunion. Pourtant, certains professionnels du tourisme disent qu'un requin vivant rapporte plus qu'un requin mort. Peut-on vraiment faire du tourisme et du business avec les requins?
Alors le terme business, c'est pas flatteur pour le requin, mais il faut savoir que voilà, on est quand même une population. Les plongeurs aiment voir ces animaux, donc il y a des regroupements. Maintenant, on sait que en suivant ces espèces, en connaissant leur lieu où elles migrent, là où elles se reproduisent, on sait par exemple que, par exemple au Mexique, si vous voulez voir du requin baleine, il faut aller au Mexique ou aux Maldives ou par exemple aux Seychelles. Donc voilà, vous avez des zones dans le monde où on sait que les requins sont présents. Donc il y a un tourisme qui s'est créé, voilà, des agences qui proposent de venir plonger avec ces requins. Et voilà, là on peut vraiment dire que le requin a plus de valeur vivant, parce qu'il ramène de l'économie touristique, il ramène de l'alimentaire, parce que les gens vont consommer, donc il y a tous les marchés au final qui vont profiter. Le requin, il est comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui veulent vraiment le voir partout dans le monde, donc ils vont en faire des millions de kilomètres pour pouvoir voir ces animaux, et qui reviendront en plus.
D'où l'appellation requin de la finance. Non, je plaisante. Alors, Naufel ou Amandine? Oui.
Entre l'homme et le requin, c'est un peu là une sorte de guerre de territoire. Que faudrait-il faire pour que les deux vivent ensemble? On ne peut pas protéger la nature et en même temps développer le tourisme?
Il faut faire les deux. Au final, il y a pas de, on cohabite dans le même milieu. Il faut savoir que la population humaine, il y a plus de population au bord des côtes, sur le côté vraiment sur la côte, c'est là où les populations avec les ports et tout, toutes les activités s'agglomèrent. Donc forcément, il y a une cohabitation. On disait tout à l'heure, moi j'ai vu il y a quelques années le surf par exemple en Bretagne, c'était, il y avait trois personnes qui en faisaient. Maintenant, on peut en faire partout. Il y a de plus en plus de monde avec l'activité humaine qui fait qu'on on arrive en mer. Donc faut pouvoir vivre en commun et faire en sorte que tout ça fonctionne. Il y aura que de la cohabitation en connaissant ces animaux, en sachant comment ils se reproduisent, en sachant comment ils vivent. Pourquoi les requins à La Réunion sont de plus en plus présents? Et ben là la question, il faut laisser les scientifiques pouvoir y répondre.
Tous les ans, Nausicaa organise à l'automne la semaine du requin. Vous avez déjà une idée du programme de cette année?
Alors, oui, il y aura des rencontres, un peu comme tous les ans, mais cette année, notamment, on a envie vraiment de parler des requins du grand large, comme le requin baleine, sur lequel on a déjà posé des balises, et puis monter d'autres programmes, d'autres requins, du grand large océanique, mais pas forcément d'eau chaude. Et là-dessus, je vais laisser Thomas répondre, parce que on parle beaucoup d'un projet concernant le requin taupe, qui est vraiment très très intéressant, et c'est Thomas qui a eu l'idée.
Alors, le requin taupe, au final, c'est un requin méconnu qui est sur nos côtes. C'est un requin du type mako, donc un requin qui ressemble vraiment au requin blanc. Il y a quelques années, on l'observait beaucoup au large, et l'activité humaine fait que maintenant, on le retrouve beaucoup plus proche des côtes, et notamment en Bretagne, du côté de Ploumanac, on a des observations. Il y a déjà eu un marquage avec l'APEX, l'Association pour la protection des Stélaciens. Et cette année, on aimerait bien pouvoir participer, donc tout reste encore à développer, mais voilà, ça serait pour apprendre. Parce que, comme on disait, il y a des requins partout dans le monde, et bien aussi sur nos côtes, et notamment un requin encore un peu méconnu qui avait quasiment disparu à cause de la pêche, et maintenant qui réapparaît et qui peut se faire observer par les plongeurs bretons.
Eh bien, merci en tous les cas à tous les deux, hein, d'avoir répondu à nos questions. L'heure tourne, donc on va se retrouver d'ici quelques minutes sur Radio Plus, juste après la pause publicitaire. On va se retrouver à 15h01 en compagnie notamment de Xavier Elsmortel. Et puis, on vous remercie en tous les cas, tous deux, d'avoir répondu à nos questions. Puis merci également, Naufel et Amandine, pour toutes les questions que vous avez préparées. Voilà, on se retrouve d'ici quelques instants sur Radio Plus. Restez avec nous. Toujours en direct, bien sûr, de Nausicaa.